Bonjour à tous, juste quelques petits tracas comme d'habitude technologiques que je ne saurais expliquer pour l'instant. J'essaie de publier la vidéo sur mes pages personnelles, mais il semble que ça achoppe pour l'instant. Donc, je devrais bientôt être à vous, donc je ne vous oublie pas. C'est bizarre tout ça. Ici. On va essayer par d'autres moyens. D'ici là, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bien reposés. Bon, ça ne veut vraiment pas connecter sur ma page à moi, donc on va laisser faire pour aujourd'hui, je suppose. Une dernière tentative. Non, il veut vraiment pas. Donc, on laisse ça comme ça pour l'instant. Donc, je suis même pas sûr de pouvoir vous saluer tous autant que vous êtes. C'est un peu compliqué, hein, ce matin. Juste ouvrir par ici. Tout marchait bien il y a encore 15 minutes. Et tout d'un coup, tout s'est mis à choper. Malheureusement. Je vais avoir une ou deux minutes de retard. Bon, on dirait que maintenant ça marche. Partager ici. Les joies de l'Internet et de l'informatique. Ça vous a donné le temps d'aller chercher un petit café, je l'espère, ou un verre d'eau pour vous préparer. Tel que c'est mentionné dans le titre de ce matin, le texte que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 2. C'est les trois derniers versets qui vont être la base de notre réflexion aujourd'hui. Ça chauffe encore. On y est presque, on y est presque. Je m'excuse énormément. Jusqu'à des gens qui se branchent de par la page Facebook de l'Église, d'autres se branchent par une de mes deux pages personnelles. Donc, parfois, c'est un peu compliqué pour rejoindre tout le monde. Et je ne suis aucunement un crack en informatique. Je fais juste semblant de savoir ce que je suis en train de faire avec l'Internet. Donc, d'ici là, J'y vais un peu à tâtons. Ok, on y va comme ça. Je n'ai pas accès à la messagerie, donc je ne peux pas tous vous saluer autant que vous êtes. Je vois qu'il y a des petits cœurs qui s'affichent, puis tout ça, mais je ne peux pas défiler. Donc, allons-y comme ça ce matin. Donc, on va prier simplement pour rendre grâce au Seigneur, pour lui demander de prendre contrôle de ce petit moment de partage et de réflexion. Seigneur, nous voici dans ta présence encore pour plonger nos regards dans ta parole alors que nous débutons notre journée. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons tellement, mais tellement, mais tellement besoin de toi. Non seulement en raison de ce qui peut être notre vie actuellement, en raison de la crise que notre planète traverse, mais plus encore, Seigneur, simplement parce qu'on reconnaît que sans toi, nous ne sommes rien et que sans toi, nous ne pouvons strictement rien. Tu es celui qui a renouvelé encore ce matin notre souffle de vie. Et c'est toi, Seigneur, qui nous donne les forces pour la journée d'aujourd'hui. Tu vois, Seigneur, quels seront les défis que nous pourrons rencontrer. Tu vois, Seigneur, les situations qui se présenteront devant nous. Mais nous savons, Seigneur, que pour chacune d'entre elles, pour chacune de nos rencontres, pour chacun de nos échanges, pour chacune des situations qui seront nôtres, tu as non seulement l'inspiration nécessaire, tu as l'onction et tu as aussi l'action nécessaire en notre faveur. Alors, Seigneur, nous nous plaçons à tes pieds et nous regardons vers toi comme un serviteur regarde vers son maître, et nous te disons simplement, parle-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur, parce que c'est de toi que nous tirons tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous aspirons à être. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère, et je demande, Seigneur, que ta grâce nous soit accordée. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors on ouvre dans Jean au chapitre 2. Et je vais lire pour vous les trois derniers versets du chapitre. Je vais lire deux fois dans la version Louis II. Et par la suite, je vais le lire dans la version Pain de vie. Toujours cette version plus simplifiée, qui permet peut-être une compréhension plus approfondie du texte ou plus terre à terre du texte. Alors Jean 2, le verset 23 nous dit, pendant que Jésus à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin que l'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Je répète, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La version Pain de vie nous dit, pendant la fête de Pâques, Jésus est à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Mais Jésus n'a pas confiance en eux, parce qu'il les connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Un passage étonnant. On est au début du ministère de Jésus. Dans les paragraphes qui précèdent, Jésus a fait ce premier miracle public aux noces de Cana, lorsqu'il a changé l'eau en vin à la célébration ou à la fête qui accompagne un mariage dans sa commune de Cana. Et par la suite, donc, Jésus commence son ministère, commence à se déplacer. Et lorsque la fête de Pâques arrive, il se rend à Jérusalem. Et à Jérusalem, il continue à faire des miracles et plusieurs personnes vont se tourner vers lui. Mais Jésus ne va pas leur prêter plus d'attention qu'il ne faut ou ne va pas leur accorder crédibilité dans leur démarche parce que la Bible nous dit qu'il connaît exactement le cœur de ces personnes-là. Et la première chose qu'on doit savoir, c'est que Jésus connaît nos cœurs. Il connaît exactement l'état de ton cœur aujourd'hui. Il connaît exactement l'état de mon cœur aujourd'hui. Il sait si mon cœur lui est acquis ou non. Il sait si effectivement mon cœur lui appartient totalement ou partiellement. Il sait si dans mon cœur j'ai le désir profond de le servir et de lui être fidèle. Ou il sait si mon cœur est divisé. Et le mot divisé ici prend une signification importante lorsqu'on revient au texte. La Bible nous dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, Jérusalem, comme on l'a vu dimanche dernier, pouvait être dans les textes du Nouveau Testament, soit mentionné dans le terme hébraïque, Yerushalom, qui veut dire la ville de la paix en hébreu, ou sinon pouvait aussi être utilisé avec sa formule grecque, Yerosolima. Et je disais que quand on l'utilisait d'une façon ou d'une autre, ça avait un sens différent. Jérusalem, Yerushalom en hébreu, voulait dire la ville de la paix, la ville où il y a eu la paix entre l'homme et Dieu. La ville où Dieu rétablit ses relations entre lui et le genre humain. Mais lorsqu'on arrive dans la définition grecque de Jérusalem, ça a un tout autre sens. Un sens qui va bien avec la pensée d'un cœur qui pourrait être divisé à la fois pour Dieu et à la fois pour les choses de ce monde. Le terme Jérusalem qui est utilisé ici, c'est effectivement le terme grec. Hierosolima, qui veut dire une double paix. Mais comme je l'expliquais dimanche, ça ne veut pas dire une double paix dans le sens d'une double portion de la paix, mais plutôt d'une paix qui est divisée en deux. Une paix qui est divisée entre ce qui plaît à Dieu et ce qui plaît au monde. Et Jésus se trouve dans la fête de Pâques, la fête la plus religieuse de l'année juive, la fête la plus importante dans les pratiques du judaïsme. Mais le terme qui va être utilisé ici, c'est que dans cette ville qui est actuellement dans des célébrations religieuses hors normes, on se trouve quand même dans une ville qui est divisée spirituellement. Une ville qui à la fois essaie de contenter Dieu et à la fois essaierait de contenter les choses de la chair, les choses du monde. Et voilà pourquoi, même s'il y a des gens qui commencent à croire au nom de Jésus, Jésus va les regarder et lui ne croira pas dans la véracité de leur conversion, dans la véracité de leur attachement envers lui. Le mot Jésus, le nom Jésus, Jésus, veut dire Dieu sauve. Alors les gens voient Jésus, voient les miracles que Jésus accomplit, et certains d'entre eux commencent effectivement à croire que Jésus est le sauveur ou que Jésus amène vers le salut. Mais leur démarche n'est pas sincère. Il n'est simplement guidé que par les miracles, les prodiges, le côté spectaculaire que Jésus peut amener par sa puissance et par ses hauts faits. Et le questionnement que j'ai pour moi ce matin, mais que je t'invite à avoir toi aussi pour ta propre vie, quelles sont les raisons pour lesquelles tu suis Jésus? Si Jésus est amené aujourd'hui à scruter ton cœur, quelle est la conclusion qu'il va apporter sur l'état de ton cœur? Se pourrait-il qu'à l'instar de Jérusalem, ton cœur soit divisé, que tu cherches à la fois à plaire Dieu, mais en même temps à plaire autre chose ou autre personne, voire toi-même? Se pourrait-il que tu essaies de contenter Dieu et de te contenter par la même occasion? Dieu ne partage aucune place. Dieu ne partagera pas ton cœur. Soit ton cœur lui appartient totalement, ou ton cœur ne lui appartient pas. Tu ne peux pas offrir à Dieu une demi-maison. Tu as un 4,5 et tu lui dis, toi tu vis dans un 2,5. Je te laisse 2,5 pièces, mais pas les 4,5. Si tu donnes ta vie à Dieu, tu la donnes de façon entière, globale et complète. Tu ne peux pas être divisé. Et c'est le malheur dans lequel plusieurs d'entre nous, on tombe régulièrement. Pensez qu'il est possible de faire des compromis avec Dieu. Pensez que si on lui offre simplement 50% de notre existence, ça serait à ses yeux satisfaisant. Que si on lui donne même 80%, il devrait en être pleinement satisfait et heureux. Ou même si on lui donnait 95%, qui se rapproche de ce 100% que représente la totalité de notre vie, que Jésus pourrait être contenté, que Dieu pourrait être contenté par 95% de notre existence. Je pense que le confinement dans lequel on est soumis actuellement, le fait qu'on doive rester à la maison, plusieurs ne peuvent pas aller travailler, plusieurs ont plus de temps pour réfléchir, pour prier. Je pense que c'est le temps idéal et parfait pour nous, en tant que croyants, de réévaluer quelles sont les choses que j'ai données à Dieu et quel est l'état de ma relation avec lui. Est-il vraiment mon sauveur à 100%? Et ça, en général, c'est une facette facile qu'on lui accorde. Qu'il soit notre sauveur, on sait qu'il est le seul qui peut sauver l'humanité et on lui accorde régulièrement ou facilement le statut de sauveur dans nos vies. Là où on a un peu plus de difficultés, c'est dans le statut de Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire, veut dire maître, veut dire celui qui domine. Mais Jésus ne peut pas être un demi-seigneur dans ta vie. Il ne peut pas être pleinement sauveur et demi-seigneur. Soit il est pleinement sauveur et pleinement seigneur, mais il ne partagera pas un de ces rôles-là. Donc je m'interroge sur moi-même. Est-il vraiment mon 100% seigneur? Et s'il est 100% seigneur de ma vie, c'est qu'il a le contrôle sur l'ensemble de mon existence. Sur tout ce que je suis, sur tout ce que je fais, sur toutes mes aspirations, sur mes volontés, sur mes désirs. Il a non seulement droit de regard, mais il a le droit d'intervention. Il a le droit de stopper des choses. Il a le droit de demander et d'exiger des choses de ma part. Et est-ce que moi, je me comporte comme en ayant effectivement Jésus comme Seigneur? Et la Bible nous dit ici que Jésus connaît les cœurs des hommes. Il va dire, on n'a pas besoin qu'on rende témoignage de quelqu'un devant lui parce qu'il connaît les cœurs de l'homme. Ça veut dire que ces gens-là qui professaient commencer à croire, qui professaient effectivement croire qu'ils pouvaient être la voie de salut, Jésus ne leur faisait pas confiance et Jésus n'accréditait pas leur dire parce que leur dire ne correspondait pas avec ce qu'ils voyaient à l'intérieur d'eux. On ne peut pas jouer la comédie devant le Seigneur. Il sait exactement tout ce que nous sommes, dans les moindres, plus profonds et plus intimes détails de notre existence. Il nous connaît parfaitement, en bon québécois, sous toutes les coutures. Il n'y a pas une facette de notre vie qui passe inaperçue à ses yeux. Et nos belles paroles qu'on pourrait aisément élevé, qu'on pourrait aisément prononcer. Et certains sont bons en littérature, sont bons en poésie. Certains alignent des mots, puis on dirait que c'est tellement sous l'onction de Dieu. Mais lorsque Dieu lui-même regarde les mots, lorsqu'il entend les mots qu'on prononce et qu'il regarde le cœur, lui, il est à même de dire si ça correspond l'un avec l'autre ou s'il y a un déphasage entre les paroles que je prononce à son égard et l'état véridique de mon cœur. Et Jésus va dire que il savait que ces hommes-là étaient effectivement comme la ville de Jérusalem, divisée en deux. Un verset important que le roi David va prononcer dans un de ses psaumes, c'est dans Psaume au chapitre 17 et le verset 3. Psaume 17, verset 3, et je lis pour vous. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Si tu cherches à me tester, Seigneur, tu trouveras rien, mais dans le sens, tu ne trouveras rien qui fasse défaut. Tu ne trouveras rien qui soit en discordance. Parce que ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Ce qui sort de ma bouche est en parallèle, est en exactitude avec ce qui habite à l'intérieur de moi. Donc ici, Jésus, s'il regardait quelqu'un dans cet état-là comme David, David qui, je rappelle, était un homme selon le cœur de l'Éternel, il serait à même de dire que ce David-là n'est pas sous le règne de Jérusalem version grecque, mais il est sous le règne de Jérusalem version hébraïque, donc Jérusalem qui est la ville de la paix entre l'homme et Dieu. Une paix, une situation qui a été pacifiée entre moi et mon Dieu, et non pas une situation où je suis divisé dans mon cœur. Le défi pour toi aujourd'hui, le défi pour moi aujourd'hui, s'assurer que ce qui sort de ma bouche soit en parfaite connexion avec ce que j'ai à l'intérieur du cœur. Ou que ce qui sort de ma bouche soit un reflet honnête de ce qui est à l'intérieur de mon cœur. Et si le Seigneur venait à éclairer ton existence et mon existence en disant, Florent, il y a des choses de ta vie qui ne m'ont pas été données, que j'ai cette sagesse, mais instantanée, de dire, Seigneur, je te remets même ces choses-là. Peut-être que le Seigneur va éclairer des secteurs de ton existence alors que tu es dans ce temps de pause, ce temps d'introspection, ce temps de recherche de la face de Dieu. Peut-être que tu es dans un moment où tu as accentué ton temps de prière, où tu as accentué ton temps de lecture, où tu as augmenté ton temps de méditation et de recherche de la face de Dieu. Et si c'est le cas, Dieu assurément va te révéler des choses sur ta vie. Dieu assurément va révéler des choses sur ton cœur, sur les profondeurs même de ton être. Et s'il te disait, mon fils, ma fille, il y a des choses que tu ne m'as pas encore remises, je prie et je t'invite vraiment, je t'exhorte. Aie cette sagesse à ne pas garder ces choses pour toi, mais à les remettre pleinement, totalement, entre les mains du Seigneur. Parce que Jésus ne partagera pas ta vie. Il ne partagera pas ta vie avec toi. Soit ta vie lui appartient ou ta vie t'appartient à toi. Jésus ne partagera pas la domination ou la royauté, le règne sur ta vie avec toi ou même avec le diable. Soit ça t'appartient, soit ça appartient à Jésus. Soit ça appartient au diable ou ça appartient à Jésus. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, par moments, est invité à réfléchir, à dire, mais choisis aujourd'hui qui tu serviras, Dieu ou Baal. Choisis aujourd'hui qui tu serviras, Dieu, l'Éternel, ou Astarté, les idoles de Babylone et les idoles du pays de Canaan. Aujourd'hui, c'est aussi une journée où je dois décider qui je vais servir. Est-ce que je vais servir Dieu? Est-ce que je vais vivre pour Dieu? Ou je vais vivre pour moi ou pour autre chose? C'est ta décision et je ne peux pas faire cette décision pour toi. Ton conjoint, ton mari plutôt, ton épouse ne peut pas faire cette décision pour toi. Tes parents ne peuvent pas faire cette décision pour toi en tant que jeune homme ou jeune femme ou enfant. Tout comme toi en tant qu'enfant, tu ne peux pas prendre cette décision pour tes parents. Ou en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, tu ne peux malheureusement pas prendre cette décision pour celui qui ou celle qui chemine à tes côtés. En tant qu'ami, même si vous êtes proche, tu ne peux pas prendre la décision pour ton ami. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que deux marcheront ensemble sur un chemin et le jour de l'avènement, un va partir et l'autre va rester. Deux seront couchés dans un même lit et un va partir, l'autre va rester. Parce que la décision, même si on marche communément, la décision reste et demeure une décision et une vie spirituelle qui est individuelle. Alors ce matin, je prie qu'effectivement, lorsque le Seigneur regarde ton cœur, il est capable de te faire confiance, il est capable de se fier à toi et que les témoignages qu'il a à émettre de ta vie sont des témoignages qui proclament qu'effectivement ton existence lui appartient, qu'effectivement ta vie lui appartient. Alors c'était la méditation que j'avais pour nous ce matin. Je vais prier pour nous tous, prier que le Seigneur nous bénisse et nous aide dans nos réflexions de cette journée. Seigneur, nous voici en ta présence, ayant été éclairés par ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est claire. Tu sondes nos vies. Et cette parole, Seigneur, est un regard profond sur notre existence. Cette parole, Seigneur, tu nous dis qu'elle est apte à diviser et à aller aussi profondément que séparer l'os de la moelle. Alors je prie, Seigneur, que lorsque tu regardes nos vies, tu puisses faire le même constat que tu faisais pour ton serviteur David. Lorsque tu me sondes, même la nuit, mes pensées ne sont pas autres que ce que ma bouche et mes lèvres proclament. Et je prie, Seigneur, que ce que tu vois dans mes pensées et ce que tu entends qui est émise ou émis par ma bouche, que ce soit, Seigneur, un sujet de joie pour toi. Que ce soit, Seigneur, un sujet de gloire pour toi. Mais que je ne sois pas, Seigneur, à tes oreilles, un sujet de scandale. Que je ne sois pas à tes yeux, une source de scandale. Seigneur, je veux t'honorer avec ma bouche. Je veux t'honorer avec mes pensées. Je veux t'honorer, ô Dieu, avec l'ensemble de ma vie, mes actions, mes réactions, mes pensées, mes objectifs, mon raisonnement, ma façon d'être. Je veux que ma vie tout entière soit une source de joie et d'allégresse pour toi. Et je veux, Seigneur, que je puisse t'appartenir totalement. Si tu vois, Seigneur, dans cette période où nous sommes arrêtés, dans cette période où nous prenons peut-être plus de temps à chercher ta face, ce que nous aurions dû faire depuis si longtemps, et non pas sous la contrainte de cette pandémie ou des situations qui nous entourent. Seigneur, depuis si longtemps, on aurait dû prendre ce temps d'arrêt pour réfléchir et pour te demander, Seigneur, que dis-tu de moi? Que dis-tu de ma vie? Que penses-tu de ma vie, Seigneur? Suis-je effectivement en train de t'honorer en mettant toutes mes forces, toutes mes ressources, toute mon énergie pour toi, où tu sais, Seigneur, que j'ai gardé des choses pour moi? Je prie pour ma sœur, Je prie pour mon frère ce matin. Parle-lui clairement. Parle-lui, Seigneur, clairement, afin que l'un et l'autre puissent vraiment, Seigneur, avoir une idée précise de leur état spirituel. Et je prie, Seigneur, que si nous nous sommes éloignés, si notre cœur a été divisé, que nous prenions les décisions qui se doivent, que nous corrigions ce qui est à corriger, et que nous te laissions aussi, Seigneur, le droit d'entrer, de pénétrer, d'avoir regard, mais aussi droit d'intervention sur toutes les facettes de nos vies. À certains, Seigneur, tu vas dire que le mensonge meuble nos lèvres. À certains, Seigneur, tu vas dire que le cœur est divisé. À certains, Seigneur, tu vas dire que non, nous ne donnons pas à ta cause et à ton royaume ce que nous devrions donner. À certains, Seigneur, tu vas dire que nous nous épargnons nous-mêmes. Nous nous économisons nous-mêmes et que tu attends davantage. À certains, Seigneur, tu vas dire que nous avons refusé de pardonner. À certains, tu vas dire, Seigneur, que nous avons refusé de nous soumettre. À certains, Seigneur, tu vas dire que nous avons troqué notre alimentation spirituelle par des passions tout à fait humaines et charnelles. Alors ce matin, je prie. Parle à mon âme, parle à mon esprit. Parle sur moi, Seigneur. Éclaire-moi, dirige-moi et conduis-moi. Au-delà de ce temps, Seigneur, qui vient à terme pour notre rencontre de ce matin, durant cette journée, Seigneur, parle à ta fille. Parle à ton Fils. Révèle-toi, Seigneur, à chacun d'entre nous. Afin, Seigneur, que ce soir, lorsque nous irons nous coucher, nous puissions effectivement dire que nous avons mis nos vies en règle avec toi et que nous avons pris des décisions à ton égard. Alors je bénis ma sœur et je bénis mon frère. Je place leur journée sous la protection de ta main toute-puissante. Pourvois, Seigneur, à ceux dont ils ont besoin aujourd'hui. Sois leur guide, dirige-les, garde-les. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, sur ce, je vais voir si je suis capable de saluer quelques personnes. Non, il y a trop de choses que je ne vois pas sur mes outils aujourd'hui. Donc, je vous répondrai en allant... likez votre présence et en vous saluant différemment. Alors sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve ce soir pour ceux qui en ont la possibilité pour notre étude biblique sur les béatitudes ou sur le sermon sur la montagne. Et on se retrouve donc demain par la suite pour notre bénédiction matinale à 8h30. Ce soir, bien sûr, c'est 19h. Et je vous rappelle que demain soir, en raison des célébrations de Pâques, nous aurons notre célébration de la Sainte Cène. Une première fois pour nous, on le fera chacun chez soi à travers l'Internet. Donc, on vous invite à vous procurer votre pain, à vous procurer votre jus de raisin. J'ai expliqué hier que les substitutions... bibliquement parlant, il n'y en avait aucune qui était mentionnée. Donc, c'est pour ça qu'on vous invitait assez tôt durant la semaine à vous procurer le jus de raisin et le pain. Et demain soir, donc, à 19h, on aura l'occasion de célébrer cette Sainte Cène comme Jésus l'a fait avec ses disciples et en leur disant « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Et j'expliquerai un peu demain soir, ce qui entoure ce texte notamment, où Jésus dit qu'il a vivement désiré manger cette Pâque. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une très belle journée et on se revoit ce soir et demain pour la suite des choses. Alors, au revoir à tous.